Chapitre 16. L'erreur. Yonard accompagne Claudia Fernandez jusqu'à son taxi. Il l'aide à s'installer puis attend que la voiture se soit éloignée pour chercher son téléphone portable dans ses poches. Lorsqu'il constate qu'il l'a oublié, il retourne en hâte vers le bâtiment du service médico-légal, entre avec empressement dans le bureau de l'aiguille, saisit le combiné du téléphone fixe, s'installe sur la chaise face au bureau et compose le numéro d'Erickson.
« Laisse les gens dormir !»
répond Erickson.
« Je te rappelle qu'on est dimanche.
Avoue que tu es sur le bateau. »«
Je suis sur le bateau. » »«
Il n'y avait donc pas d'explosif ?»«
Pas à proprement parler. Mais tu avais raison. Il aurait pu sauter à tout moment. »«
Comment ça ?»«
À un endroit, l'isolation des câbles est gravement abîmée. On dirait que ça a été provoqué par l'exercice d'une pression. Les métaux ne sont pas entrés en contact. Si c'était le cas, les plombs auraient sauté. » Mais le câble est dénudé, et si l'on avait démarré le moteur, une surcharge électrique se serait produite assez rapidement, en provoquant des arcs électriques.
Et qu'est-ce qui se serait passé?
Ces arcs électriques atteignent des températures de plus de 3000 degrés. Ils auraient mis le feu à un vieux coussin de chaise qui a été posé juste à côté. Le feu se serait propagé jusqu'au tuyau de la pompe d'injection et...
À quelle vitesse?
Les arcs électriques peuvent mettre une dizaine de minutes à apparaître, peut-être plus. Mais ensuite, ça va relativement vite. Quelques flammes, l'embrasement général et l'explosion. Le bateau aurait pris l'eau presque instantanément et aurait coulé.
Donc, si le moteur avait été allumé, le feu se serait rapidement déclaré et aurait déclenché une explosion.
Oui, mais ce n'était pas forcément prémédité.
Ce serait donc un hasard que les câbles soient endommagés. Et pure coïncidence que le coussin de chaise se trouve à l'intérieur, prêt à s'embraser.
Parfaitement.
Mais tu n'y crois pas?
Non.
Yonah repense au bateau à la dérive dans le pertuis de Jungfrufjärden. Il se racle la gorge et dit d'un air pensif « Si c'est le meurtrier qui a fait ça... »«
Alors ce n'est pas un meurtrier ordinaire. »
complète Erickson. Ces mots résonnent dans la tête de Yonah. Les meurtriers classiques agissent généralement de façon passionnelle. Ils sont en proie à de fortes émotions et le meurtre, dans la plupart des cas, relève d'une phase hystérique. Ce n'est que dans un second temps qu'ils élaborent un plan ou des stratégies pour dissimuler les traces de leur crime et échafauder un alibi. En revanche, dans cette affaire, le meurtrier semble suivre froidement un plan établi en amont. Et pourtant, quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Yonah, absorbé par ses pensées, fixe le vide devant lui avant d'inscrire le nom de Viola Fernandez sur la première feuille du calepin de l'aiguille. Il entoure son nom, puis note ceux de Penelope Fernandez et de Björn Almskog. Les deux jeunes femmes sont sœurs. Penelope et Björn sont en couple. Björn est le propriétaire du bateau. Viola a voulu les accompagner et les a rejoints à la dernière minute. Il reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir établir les motifs du crime. Yonah venait d'affirmer que Penelope Fernandez était en vie. Ce n'était pas seulement un espoir, ni même la tentative d'apporter un certain réconfort à Claudia. Il s'agissait ni plus ni moins d'un pressentiment. Une idée avait fusé dans son esprit, pour lui échapper aussitôt. Si l'on se référait à la méthode utilisée par la Riksmordkommissionen, le petit ami de Viola devait être soupçonné d'office. Peut-être également Penelope et Björn qui se trouvaient sur les lieux du crime. La présence d'alcool et autres drogues serait venue compléter les éléments à charge. Une dispute avait peut-être éclaté. Une banale histoire de jalousie s'était soldée par un terrible drame. Bientôt, Leif Gustav Willi-Persson, assis dans le canapé d'un plateau de télévision, aurait expliqué face à la caméra que le meurtrier n'était autre qu'un membre de l'entourage de Viola, vraisemblablement un petit ami ou ex-petit ami. Mais pourquoi vouloir faire exploser le réservoir de carburant? Yonah tente de comprendre la logique qui sous-tend le plan de l'assassin. Viola a été noyée dans une bassine en zinc à l'arrière du bateau. Le meurtrier l'a ensuite transporté jusqu'à la cabine avant, puis l'a installé sur la couchette. Yona prend rapidement conscience qu'il est assailli de nombreuses questions et qu'il suit trop de pistes de réflexion à la fois. Il doit tenter de calmer ses esprits et de dissocier ce qu'il sait déjà de ce qui doit encore être éclairci. Il entoure à nouveau le nom de Viola et reprend depuis le début. Il est certain que Viola a été noyée dans une bassine et ensuite installée sur la couchette de la cabine avant. Il sait que Penélope Fernandez et Björn Almskog n'ont pas encore été retrouvés. Mais ce n'est pas tout, se dit-il en tournant la page. Des détails. Il inscrit les mots « calme plat » sur la nouvelle feuille. La mer était calme et le bateau a été retrouvé à la dérive près de Stortskjær. L'avant avait été endommagé à la suite d'une violente collision. Les techniciens ont probablement déjà fait leur relevé et procédé à des moulages pour faire des comparaisons. Yona jette le calepin de l'aiguille contre le mur, puis ferme les yeux. « Perkele ! Diable ! » chuchote-t-il. Une nouvelle fois, il avait la sensation que quelque chose venait de lui glisser entre les mains. Une idée avait germé avant de se dérober aussitôt. « Viola, tu es morte sur le pont arrière du bateau. Pourquoi a-t-on déplacé ton corps post-mortem? Et qui l'a fait? Le meurtrier ou quelqu'un d'autre ?» Si elle a été retrouvée sur le pont, quelqu'un a peut-être tenté de la réanimer ou d'appeler les secours, c'est l'hypothèse la plus probable. Et si cette personne a constaté qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'elle ne se réveillerait plus, elle a pu préférer ne pas la laisser ainsi et la porter à l'intérieur. Un cadavre est lourd et pénible à déplacer, même à deux. Mais il ne serait pas insurmontable de l'amener jusqu'au salon. En passant par les portes vitrées, ce sont 5 mètres à peine à parcourir et une seule marche à franchir. C'est possible, et on peut aisément l'expliquer. En revanche, on ne traîne pas le corps d'une morte en bas d'un escalier abrupt, le long d'un étroit couloir, pour le poser ensuite sur un lit. À moins qu'on ait la ferme intention de faire croire à une noyade accidentelle dans la cabine d'un bateau submergé par les flots. « Exact », marmonne-t-il en se redressant. Il regarde par la fenêtre, aperçoit un scarabée de couleur bleutée qui avance sur la tôle blanche. Il lève les yeux et voit une femme à vélo disparaître entre les arbres. Soudain, il se souvient de ce qui lui a échappé par 2 fois. Yona retourne s'asseoir et tambourine sur la table. Ce n'est pas Pénélope qui a été retrouvée morte sur le bateau, mais sa sœur Viola. Pourtant, Viola n'a pas été retrouvée dans son propre lit, mais dans la cabine avant, sur le lit de Pénélope. L'assassin a pu faire la même erreur que moi, se dit Yona en sentant un frisson lui parcourir le dos. Il voulait tuer Pénélope Fernandez. C'est pour cette raison qu'il a déplacé le corps jusqu'à la cabine avant. C'est la seule explication possible, et cela implique que Penélope Fernandez et Björn Almskog ne sont pas coupables de la mort de Viola. Eux ne se seraient jamais trompés de lit. Yona sursaute lorsque la porte du bureau s'ouvre avec fracas. Elle n'était pas bien fermée, et l'aiguille est entrée dans la pièce en la poussant du dos. Il a dans les bras un grand carton rectangulaire. De grandes flammes ornent le devant de la boîte sur laquelle on peut lire « Guitare héros ».
Avec Fripp, on va commencer.
Chut ! L'interrompt Yona.
Qu'est-ce qui se passe ?
Rien. J'ai juste besoin de réfléchir.
Yona se lève et quitte la pièce sans un mot. Il passe devant la réceptionniste sans prêter aucune attention à ce qu'elle lui dit, les yeux pétillants. Il sort dans le soleil matinal et s'arrête sur la pelouse près du parking. Une 4e personne, qui ne semble pas connaître les 2 jeunes femmes, a tué Viola, mais en pensant tuer Pénélope. Pénélope était donc en vie au moment de la mort de sa sœur, sinon l'assassin n'aurait pas commis cette erreur. Peut-être l'est-elle encore. Il se peut aussi qu'elle soit déjà morte, son corps dissimulé quelque part sur une île de l'archipel ou ballotté dans les profondeurs de la mer. Pourtant, il reste de l'espoir. Si elle est en vie, on la retrouvera bientôt. Bien qu'il ne sache pas encore où aller, Yona se dirige à grands pas vers sa voiture. Il retrouve son portable sur le toit de l'habitacle. Il a dû l'y poser en refermant la portière. Il saisit le téléphone brûlant et compose le numéro d'Anya Larson. Aucune réponse. Yona s'installe sur le siège avant, attache sa ceinture mais ne démarre pas. Il tente de déceler les failles de son propre raisonnement. L'air est lourd, mais l'odeur riche et puissante qui émane des haies de lilas près du parking chasse enfin celle des cadavres qui semblaient s'être imprégnés en lui. Le téléphone sonne, il jette un coup d'œil à l'écran et répond.
« Je viens de parler avec ton médecin, »
dit Anya. « Pourquoi ?» demande Yona d'une voix étonnée.
« Yanush dit que tu n'as pas pris la peine d'aller le voir, »
poursuit-elle sur un ton de reproche.
« Il se trouve que je n'ai pas eu le temps. »«
Mais tu prends bien ton médicament. »«
Il est dégoûtant, » plaisante Yona.
« Non mais sérieusement, il a appelé parce qu'il s'inquiétait pour toi. »«
Je vais lui parler. »
Tu veux dire une fois que tu auras résolu cette affaire?
Tu as de quoi noter?
Ne t'en fais pas pour moi.
La femme retrouvée sur le bateau ne s'appelle pas Pénélope Fernandez.
Mais Viola, je sais. Peter m'a informé.
Bien.
Tu t'es trompé, Yona.
Oui, je sais.
Anya rit.
Dis-le.
J'ai toujours tort, dit-il à voix basse.
Il reste silencieux un court moment.
On n'a pas le droit de plaisanter avec ça ?
Dit-elle d'une voix hésitante.
Tu as pu trouver quelque chose au sujet du bateau et de Viola Fernandez ?
Viola et Pénélope sont sœurs. Pénélope et Björn Almskog ont une liaison, ou je ne sais plus comment on appelle ça, depuis 4 ans.
Oui, c'est à peu près ce que je pensais.
D'accord. Je continue ou ce n'est pas la peine ?
Yona ne répond pas. Il se contente de se laisser aller contre l'appui-tête, tout en constatant que la vitre est recouverte de pollen.
« Il n'était pas prévu que Viola vienne sur le bateau, »
poursuit Anya.
« Le matin même, elle s'était disputée avec son petit ami, Sergueï Yarushenko, et a appelé sa mère en pleurs. C'est elle qui lui a suggéré de demander à Pénélope de pouvoir les accompagner en mer.
« Qu'est-ce que tu sais sur Pénélope ?»«
J'ai donné la priorité à la victime, Viola Fernandez, étant donné... »«
Oui. » Mais le meurtrier pensait tuer Pénélope.
Attends, qu'est-ce que tu racontes, Yona?
Il a fait une erreur. Il avait prévu de faire passer le meurtre pour une noyade, mais il a déplacé le corps de Viola sur le lit de sa sœur.
Parce qu'il croyait que Viola était Pénélope.
J'ai besoin de tout savoir sur Pénélope Fernandez et ça.
C'est une de mes plus grandes idoles.
L'interrompt Anya.
Elle milite pour la paix et habite au 3 Saint-Paulsgatan.
On a lancé une recherche la concernant ainsi que Björn Almskog. 2 hélicoptères du service de sauvetage en mer inspectent les alentours de Dalarö. Ils devraient bientôt organiser une battue avec la police maritime.
Je suis sur le coup.
Il faut qu'on interroge le copain de Viola et Bill Persson, le pêcheur qui a trouvé le bateau. On doit aussi mettre la pression au SKL pour obtenir les résultats des analyses.
Tu veux que j'appelle Linköping?
Je vais parler à Ericsson, il les connaît. De toute façon, je vais le voir maintenant. On va inspecter l'appartement de Pénélope.
On dirait que tu te charges de l'enquête préliminaire, Yona. Je me trompe ?